Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'assied en mer. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer, et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. » Une autre est tombée sur le terrain rocheux où elle n'avait pas beaucoup de terre et aussitôt elle a levé parce qu'elle n'avait pas de profondeur et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, faute de racines, elle s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffée, elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en montant et en se développant et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Lorsque Florian et Sixtine ont choisi leur lecture pour cette célébration, je leur ai donné un critère. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'assemblée qui vous entourera ce jour-ci? Qu'est-ce que vous-même, vous avez comme désir de vivre et en quoi cette parole de Dieu que vous écouterez le jour de vos noces va pouvoir aussi résonner 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et nos chers fiancés ont choisi la parabole du semeur. Ce n'est pas si fréquent d'entendre la parabole du semeur et c'est vraiment un choix excellent. La parabole du semeur, c'est le Seigneur qui sort à travers le semeur, symbolisé de cette manière, et qui jette du grain, et c'est la parole de Dieu, et ce grain tombe partout, sur le bord du chemin, tombe parmi les ronces, parmi le sol peu profond, et enfin tombe dans la bonne terre. Je trouve que cette parabole exprime bien ce qu'est la vie matrimoniale. Je méditerai particulièrement sur trois terrains que l'Évangile met en lumière. Tout d'abord, le fait que le semeur jette le grain de la parole parmi un lieu où il y a des ronces. Et pour moi, à travers ce lieu où il y a des ronces, c'est-à-dire une terre qui n'est pas fertile, une terre qui assèche la puissance de vie du grain, eh bien, ça représente le perfectionnisme. Le perfectionnisme vise davantage la perfection de l'œuvre que la qualité de la relation. Et dans le perfectionnisme, il y a quelque chose du roncier. Il y a quelque chose qui fait mal, qui pique, dès que ce n'est pas à la manière que j'ai prévue. Le perfectionnisme stérilise les terres les plus prometteuses, les humanités les plus belles. Parce que c'est une idole. Et vous le savez que la définition d'une idole, c'est quoi? C'est ce qui se met à la place de Dieu. C'est ce qu'on met soi-même à la place de Dieu. Et nous, comme êtres humains, dans un désir de contrôle, parce que c'est bien l'expression d'un désir de contrôle que le perfectionnisme, Nous, êtres humains, nous avons parfois le désir de mettre à la place de Dieu la perfection de notre œuvre. Or, en ce bas monde, nous le savons, rien n'est parfait. Et il y a, donc c'est intéressant de dire qu'il y a là un piège pour la vie matrimoniale, de se dire au fond que si dans ma vie de couple, je n'accepte pas d'une certaine manière la fragilité, parce que nous le savons, le mariage, c'est l'union de deux pauvres, c'est l'union de ceux qui, parce qu'ils deviennent mari et femme par le sacrement, se présentent devant l'autel du Seigneur, mais se présentent comme des pauvres, parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne pourront rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alors oui, parce qu'on a conscience de ça, on se met aux pieds du Seigneur, à genoux, suppliant sa grâce. C'est ça le mariage. On supplie la grâce de Dieu. Et puis le deuxième terrain sur lequel aussi j'aimerais méditer avec vous, c'est le terrain peu profond. La parole est semée, elle prend un peu racine, elle lève, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, eh bien, elle est desséchée aussitôt par l'ardeur du soleil. Eh bien, pour moi, cette deuxième terre, c'est l'activisme. L'activisme qui consiste à vouloir mettre dans 24 heures plus que 24 heures. L'activisme qui vise beaucoup plus la quantité des actions que la qualité de la présence. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ces deux terres stériles, perfectionnisme et activisme, sont en nous, en chacun de nous. Et nous devons être attentifs parce que ça nous indique un lieu pour le combat spirituel. Un lieu justement où nous voulons lutter contre ces deux idoles. Parce qu'à quoi est-ce qu'on reconnaît une idole ? C'est qu'il n'y a pas de repos. C'est ça une idole. Il n'y a pas de repos. Je peux toujours plus, je peux en faire plus dans 24 heures. Je peux toujours augmenter le degré de perfection. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. Mon cœur n'a de repos, dit le grand saint Augustin, tant qu'il ne repose en toi. Nous, nous sommes la religion du repos, parce que nous sommes la religion d'un Dieu un et d'une confiance. Nous sommes la religion qui accueille la fragilité. Alors, la question est, parce qu'il est une autre terre, il n'est pas que ces deux terres stériles, il est une autre terre, la terre du centuple, la terre qui porte du fruit. Comment fait-on pour accéder à la terre du centuple? Eh bien, mes amis, nos chers fiancés, de façon admirable, nous donnent la clé. Et je vous invite à prendre vos livrets et dans la première lecture, la lecture de l'apôtre saint Paul aux Philippiens, il est dit, soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. La joie est la clé de la terre du centuple, parce que la joie est le fruit de l'humilité. Vous le savez, humilité vient de humus, terre, qui a formé le mot homme. L'humilité est cette terre qui rend féconde les terrains les plus arides. L'humilité, c'est ce qui permet d'avoir une fécondité à nos vies, que nos vies portent du fruit et du fruit en abondance. C'est ça l'humilité. C'est accueillir sa juste place face à Dieu et face aux hommes. C'est se reconnaître limité, c'est accueillir le manque, accueillir l'imperfection. Oui, frères et sœurs bien-aimés, à travers cet engagement de Sistine et Florian, nous avons ce rappel de l'humilité comme un lieu de fécondité de nos vies. Alors, c'est une clé pour la fécondité, mais c'est une clé pour la vie matrimoniale. Évidemment, comme il est important que les époux, l'un face à l'autre, renonce à une forme de toute-puissance, à une maîtrise, à un contrôle. Parce que la maîtrise, le contrôle, la toute-puissance, voilà les ennemis du couple. Voilà les ennemis du couple. Voilà les ennemis de la vie spirituelle, tout simplement. Parce que justement, à travers ces terres stériles, eh bien, nous ne pouvons pas grandir dans l'amour. Or, si Sixtine et Florian sont là devant l'autel du Seigneur aujourd'hui, c'est bien pour grandir dans l'amour. Ce n'est pas le sommet de leur vie matrimoniale, le sommet de leur amour, et ensuite ils font comme ils peuvent. Non, ils sont à la base, sur la terre, et peu à peu, ils s'élèvent, peu à peu, ils rejoignent le ciel. Nous le croyons. Le mariage, c'est rentrer dans une dynamique de l'amour. C'est rentrer dans une capacité d'aimer chaque fois plus grande. C'est ce que nous demandons au Seigneur avec humilité, parce que nous avons conscience, nous aussi, de l'orgueil, de l'égoïsme qui nous habite, de ces lieux de stérilité en nous. Eh bien, nous demandons au Seigneur qu'il vienne visiter ces lieux de stérilité, qu'il vienne répandre sa vie et sa vie en abondance, parce que nous croyons en un Dieu de la vie et de la vie qui demeure. Alors, c'est vraiment un très bon choix de lecture, vraiment très bon choix qui exprime la vie matrimoniale, j'allais dire de façon plus large, la vie chrétienne dans son ensemble. Tous nous sommes touchés par les terres stériles, mais tous nous sommes attirés par la terre du centuple. Demandons, frères et sœurs bien-aimés, pour Sixtine et Florian, et pour nous-mêmes, que nous choisissions ce chemin de l'humilité, ce chemin de la joie, ce chemin qui, au fond, n'aura de plénitude qu'en Dieu, et que ici-bas, nous puissions vivre avec confiance cette joie à laquelle le Seigneur nous appelle, parce que nous sommes sûrs, comme nous avons chanté lors du refrain du psaume, que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?